Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Alors vous êtes un peu loin, mais n'hésitez pas les prochaines fois à vous mettre un peu plus près. On a nos masques, donc je pense que ça craint rien de se mettre un peu plus près, parce que l'amphi est très grand. J'ai l'impression que vous n'êtes pas tous là. Est-ce que vous savez si les autres sont en quarantaine? Vous savez? Non? Absent. Alors, je vais vous. Donc, bienvenue dans le cours de technique et architecture des ouvrages de génie civil. Vous allez voir que ce cours, il est assez spécial par rapport aux autres cours que vous avez. Il n'est pas sous un format traditionnel avec des amphis et des petites classes. C'est un cours, en fait, qui a vocation à vous confronter à la réalité du monde construit et comment sont faites les choses. À la fois techniquement, mais aussi tout le processus de conception des projets, donc les concepts architecturaux, les études techniques, le contexte politique, social, voilà, tout l'environnement qui fait un projet construit. Donc pour ce cours, ça va plutôt être... Plus près du micro? Vous m'entendez bien? Ah d'accord, pour la captation. Merci. Donc ce cours, ça va être une série de conférences et de visites. Vous allez avoir des intervenants qui vont venir vous parler de bâtiments construits. Voilà, et ce sont souvent des intervenants qui ont travaillé sur ces projets. Et ensuite, pour la plupart de ces projets, on va aller les visiter sur place. Donc le format de chaque séance, ça va être généralement, sauf exception, des conférences ici à l'École des Ponts à partir de 13h45-14h, une conférence de 1h30, 2h. Ensuite, on prend tous les transports en commun pour se rendre sur les lieux de visite à Paris. Pour certaines visites, on sera directement sur place. Voilà, ça va dépendre des séances. Je vous présenterai plus tard le programme détaillé, à la fin de la séance d'ailleurs. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une séance introductive. Donc, on va d'abord avoir une conférence de Bernard Vaudeville, que vous connaissez, puisque c'est votre président de département. Il va vous parler du rôle des ingénieurs dans la fabrication du projet. Parce que c'est ça qui va un peu nous intéresser tout au long du semestre. C'est quel rôle vous, plus tard dans votre vie professionnelle, vous allez avoir dans le processus de conception et de construction d'un projet. Ensuite, il y a Isabelle Soto, ici. Qui va vous parler des multiples acteurs d'un projet de construction. Ensuite, on fera une petite pause. Et ensuite, à la fin, je vous expliquerai plus en détail le déroulement du cours. Comme la plupart des visites auront lieu à Paris, je présenterai un peu Paris aussi pour les élèves étrangers qui ne connaissent pas bien. Mais même pour les élèves français, je pense que ce sera bien de resituer un peu le contexte. Voilà, et ensuite vous aurez en détail le programme du cours, des visites et des conférences, et on vous expliquera le mode d'évaluation et la bibliographie. Déjà, je voulais savoir parmi vous qui vient de l'étranger, qui est en double diplôme? Ok. Et les autres, vous êtes qui est parisien parmi les autres? Ok, juste. D'accord. Voilà. Et sinon, je voulais, avant de passer la parole à Bernard Vaudeville, je voulais juste vous dire que donc les deux responsables du cours, ce sont Isabelle Soto et moi-même. Donc nous, on sera présente à chaque séance. Si vous avez des questions sur l'organisation, sur les visites, c'est à nous qu'il faut s'adresser. Je vous mettrai notre adresse mail plus tard. Donc Isabelle Soto, elle est ingénieure et architecte. Son diplôme d'ingénieur, elle l'a eu à l'université de Grenade et son diplôme d'architecte à l'université de Malaquais, à Paris. Et moi, je suis aussi architecte ingénieur, donc j'ai commencé par architecture à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, juste à côté. Et mon diplôme d'ingénieur, je l'ai fait ici au Pont des Chaussées, voilà, il y a quelques années. Voilà, donc je passe la parole à Bernard Vaudeville.
Et il y aura l'intervention de deux architectes dans certaines visites ou certaines conférences qui sont Patrick Céleste et Michel Pesson-Pesse. Voilà, donc OK. Donc, je vais essayer de mettre un peu le contexte de ce cours. En fait, ce cours, comme le disait Laurie, c'est un cours qui vise à... c'est pas un cours technique. Hein. C'est un cours, en fait... Bien sûr, on parle un peu de technique au cours de ce cours, mais c'est un cours qui, surtout, vise à montrer des choses construites par plein d'acteurs différents, dont les ingénieurs. Et on va notamment insister sur le rôle de l'ingénieur dans les choses construites. Mais en fait, on voulait, en début de deuxième année, tout de suite vous plonger dans le réel de ce qui est construit, voyez, dans la, et aussi dans la, vous faire comprendre la finalité de vos études. La finalité de vos études, c'est de construire des projets. Il y a toute une culture de cette construction qu'on voudrait commencer à vous transmettre. Ces choses construites, elles se font bien sûr avec plein de monde, dont les ingénieurs, mais elles se font aussi dans un but. Voilà. Et on veut aussi vous faire comprendre le but. Donc, c'est un cours très, très vaste. C'est un peu de la culture, vous voyez. C'est pas un cours hyper technique, hyper pointu. C'est un peu de la culture. Vous faire toucher du doigt, développer une sensibilité sur des choses qui sont construites. Et comme le disait Laurie tout à l'heure, on a un réservoir de choses construites juste à côté, qui est formidable, qui s'appelle Paris. Donc on a une réserve de choses construites. Et plutôt que de les montrer par des photos ou de les montrer, d'aller les chercher dans des livres, on peut juste aller les voir. Et on pense que c'est très très important pour vous, ingénieurs, de vous exercer à voir les choses physiques, à vous poser des questions, à les voir dans leur échelle, à les toucher. Voilà. Alors bien sûr, au cours de ces visites, il y aura aussi des questions sur comment est-ce que ça a été fabriqué, pourquoi est-ce que ça tient, qui sont d'ordre technique. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi pourquoi est-ce que ça répond bien à des besoins, pourquoi est-ce que à une certaine époque, on a construit comme ça et maintenant, on ne construit plus comme ça. Vous voyez, toutes ces questions-là. Donc, voilà, c'est là-dessus qu'on voudrait insister. Et notamment, en parlant du rôle de l'ingénieur. Parce que, même si certains d'entre vous ont fait des études d'ingénieur, d'architecte, d'architecture avant, ou même si certains d'entre vous feront des études d'architecture avant, néanmoins, ce qui vous rassemble là, tous, c'est d'être des élèves ingénieurs en GCC, c'est-à-dire pour construire, a priori. Donc, je voudrais là vous parler un peu de ce rôle. Cette image-là, c'est l'image de quelque chose qui fonctionne très très bien, ou qui a du moins très bien fonctionné, pour l'usage qui en était demandé, c'est-à-dire des habitations. C'est des habitations troglodytes, en fait. Mais, ces habitations-là, elles datent énormément. Hein. C'est en Turquie. Et ces habitations n'ont pas nécessité l'intervention d'architectes ou d'ingénieurs. Le mot d'ingénieur, on ne le connaissait même pas à l'époque. Il n'existait pas. Est-ce que ça te dérange de passer... Voilà. Ah oui, pardon. Voilà, je vous montre trois exemples d'architecture sans ingénieurs, sans architectes. Il ne faut pas penser d'architecture, c'est-à-dire de construction. Il ne faut pas penser que c'est les ingénieurs et les architectes qui ont tout inventé dès le départ. Au départ, il n'y avait pas d'architectes, pas au sens actuel du terme, et encore moins d'ingénieurs, certainement pas. Donc ça, c'est au Ladakh. Vous voyez, ça commence déjà à être assez audacieux. C'est-à-dire qu'il faut quand même bien organiser la construction pour arriver à faire des choses comme ça. Et ça, ça date aussi de multiples siècles. Je ne peux pas vous dire précisément, mais on doit être sur 4, 5, 6 siècles. Là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus éphémère, mais vous voyez, néanmoins, assez sophistiqué quand même. C'est pas du rustique, et là encore, ça s'est fait sans architecte, sans ingénieur. Hein. Il y a, si vous suiviez un cours de construction, d'histoire de la construction, il y en a à l'école d'architecture pour ceux qui seraient intéressés, vous feriez un retour en arrière dans ces époques-là, et c'est super intéressant. Nous, on va faire un raccourci, on va aller tout de suite là. Vous voyez ? Et donc, en fait, là, je vous montre l'image d'un architecte de l'après-guerre. L'image. Les architectes, néanmoins, ils ont, on va dire, le métier d'architecte, on va dire, il date des Égyptiens, hein, on va dire. Peut-être qu'on avait déjà quelques architectes qui œuvraient avant les Égyptiens, mais c'était toujours pour faire des œuvres qui étaient extrêmement audacieuses, souvent pour le pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'ils s'occupaient des bâtisses qui étaient, elles, faites sans architecte. Donc c'est un vieux métier, le métier d'architecte. Il a beaucoup évolué. Donc là, on en voit une image qui sort d'un film que vous pouvez aller voir, qui est un film assez intéressant, où vous voyez l'architecte puissant qui est en train de, devant une maquette de gratte-ciel. Hein. Et l'image de l'ingénieur. Donc, vous vous reconnaissez hein, dans cette image-là. Donc, d'ailleurs, je vais peut-être, ça m'appelle une citation de Le Corbusier. Alors, le problème, c'est que j'ai de la buée. Le Corbusier, c'est un architecte. Tout le monde connaît Le Corbusier ? Oui. Un architecte d'avant-guerre et d'après-guerre, on va dire. Donc, il a beaucoup construit, beaucoup dessiné, beaucoup écrit aussi. Je vous cite une citation assez connue de lui. Les ingénieurs sont sains et virils, actifs et utiles, moraux et joyeux. Donc, vous voyez, vous en avez la preuve ici. Les architectes sont désenchantés, inoccupés, hableurs ou moroses. C'est qu'ils n'auront bientôt plus rien à faire. Nous n'avons plus d'argent pour échafauder des souvenirs historiques. Les ingénieurs y pourvoient et ils bâtiront. Alors, ça, c'était son petit plaisir à Le Corbusier, à, je dirais, descendre les architectes, même s'il l'était lui-même, les présentant un peu comme efféminés. Faible. Si je dis des choses de travers, tu me le dis. Hein. Vous voyez que ce n'est pas exactement le cas de ce qui est présenté dans cette image-là. Donc, vous avez donc cette image de l'ingénieur moderne. C'est en fait l'ingénieur qui est même le tenant, le moteur de la modernité, du progrès, de la technique, qui va écraser tout le reste. C'est ce que dit Le Corbusier, en ne le croyant qu'à moitié, hein, au passage. Donc, cette image de l'ingénieur, je voudrais vous la présenter un peu, parce que quand vous allez voir ce que vous verrez à Paris, dans les visites, et lors des conférences qui vous seront présentées, ce seront des ouvrages construits, où il y aura chaque fois l'architecte, qui sera bien sûr important, mais l'ingénieur sera aussi important. Dans tous les cas, vous verrez à quel point l'ingénieur a été important dans la fabrication de ces choses-là. Donc, ce que je voudrais, c'est vous montrer des figures d'ingénieurs, vous montrer d'abord un peu comment l'ingénieur, la figure de l'ingénieur est apparue. Elle est apparue beaucoup plus récemment que pour celle de l'architecte. Et vous montrer qu'il y a des variations, qu'on peut être ingénieur de différentes façons, et que l'ingénieur participe hautement à la création des ouvrages, hein, et pas uniquement par la note de calcul. Vous connaissez ce personnage ? Hein ? Donc, pour ceux qui ont pu aller dans l'Amphicaco, qui est fermé actuellement, dans l'Amphicochi, il y a un buste de Jean-Rodolphe Perronnet. Jean-Rodolphe Perronnet étant le premier directeur, quasiment fondateur, de l'école des ponts et chaussées. En quelle année? En 1747. Donc c'est très ancien, c'est très très ancien. Et c'est la première école d'ingénieurs civils au monde. Et donc ça correspond bien à un peu la création du métier ou du concept d'ingénieur. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas des gens qui travaillaient quasiment comme des ingénieurs. Mais on a commencé à se dire, dans la construction, il faudrait peut-être des ingénieurs, c'est-à-dire des gens qui s'occupent de la technique, à peu près à ce moment-là. Hein. Donc, Jean-Rodolphe Perronnet, il avait une approche de la construction. Il n'était pas ingénieur, il n'avait pas fait d'école d'ingénieur. Donc, il était lui-même, je ne sais pas comment il s'appelait, je crois, architecte. Mais il a créé cette école d'ingénieurs, des ponts et chaussées, et avec une approche qui était très mathématique par rapport à ce que faisaient les architectes de manière classique. Et notamment, est-ce qu'on fait quelque chose sur... Est-ce qu'on va voir des ponts parisiens ou, oui? Non, non, il n'y a pas. Mais enfin, si vous baladez dans Paris, il y a en face de l'Assemblée nationale, ça c'est la Concorde, vous avez un pont en pierre qui a été fait par Jean-Rodolphe Perronnet. Et ce pont en pierre, quand vous le regardez bien, eh ben, il est assez culotté, assez, comment dire, très moderne pour l'époque. Et pourquoi est-ce qu'il est moderne? C'est parce que les voûtes, au lieu de faire ça, vous regarderez les voûtes du pont Neuf et vous regarderez les voûtes de ce pont-là. Au lieu de faire ça, les voûtes, elles font ça. Et généralement, quand les voûtes s'abaissent, les poussées sont très importantes, vous savez ça. Et néanmoins, les piles sont hyper fines. Donc, Jean-Rodolphe Perronnet a construit ce pont, il en a construit d'autres aussi, mais notamment ce pont, avec une technique nouvelle de mathématiques, on va dire, qui lui permettait d'assurer la stabilité malgré des arches très, très basses. Au passage, pourquoi, quel est l'intérêt d'avoir des arches très basses dans un pont urbain? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Oui. Alors, vous avez raison, au lieu d'avoir des piles très fréquentes, on en a moins. Quel est l'intérêt de réduire le nombre de piles? C'est moins cher. Il y a peut-être d'autres raisons. Oui. Alors, ça, c'est le deuxième point très important. C'est que pour un nombre de piles donné, effectivement, si vous avez une arche qui fait ça, ben, on est obligé de monter. Donc, vous avez des ponts romains qui sont comme ça. Et alors que là, ce qu'ils cherchaient, c'était à être quasiment au niveau de la ville. Et d'ailleurs, ils y réussissent. Oui. Voilà, moins de piles veut dire des bateaux plus larges, veut dire aussi, en cas de crue, moins d'entraves à la crue, et donc moins de risques d'effondrement. Donc, les raisons, on les comprend, mais comment on le fait, ce n'était pas évident. Et donc, c'est par une maîtrise mathématique, c'est une mathématisation de son travail, qu'il a réussi à faire ce pont. Avec un matériau qui était pourtant un matériau très, très traditionnel. Voilà, et donc c'est une sorte de nouvelle culture où on dit, ben, si on appliquait la géométrie à la construction de manière plus systématique, et on va créer une école dans laquelle on va faire que ça. Hein. Cette école-là, elle a été créée par lui, mais avec quel argent? L'argent de qui? Avec quelle décision, on va dire? Comment? Ouais, donc ça veut dire un roi. C'est-à-dire que c'est une décision d'État en France, et avec un souci particulier, une raison particulière, qui était de moderniser la France. Il y avait le début de la révolution industrielle à ce moment-là, qui notamment la révolution industrielle avait commencé à se développer tout doucement en Angleterre, et on s'est dit, la France était un pays qui était très vaste, mais très peu, avec des infrastructures très faibles, hein, donc des chemins de terre très difficiles pour circuler, etc. Et donc, il y a eu une décision pour, je dirais, permettre à l'industrie de se développer, qui était de moderniser la France avec des routes, des canaux, et puis après, plus tard, le chemin de fer. Et pour ça, le roi et les ministres du roi ont dit, on a besoin de gens qui sont efficaces, qui sont un peu le fer de lance du progrès technique. Donc l'école a été créée, cette école-ci, mais vous verrez que dans d'autres pays, finalement, on a des phénomènes, des parcours qui sont un peu les mêmes, a été créée pour, comme fer de lance de la modernité technique. Donc, je vous parlais d'Angleterre. L'Angleterre, avec un parcours un peu différent, a vu apparaître des gens qui, au départ, n'étaient pas des ingénieurs, ils ne se présentaient pas comme des ingénieurs. C'était un peu des artisans qui avaient évolué, au départ. Ceux, notamment, qui ont développé toute la sidérurgie, hein, et toute la métallurgie. Et donc, et comme Telford, etc. Et à partir de l'acier, beaucoup plus, vous voyez, Perronet travaillait avec la pierre, l'Angleterre, c'est le fer. C'est même pas l'acier, c'est le fer. Et tout d'un coup, ce matériau produit en très grande quantité va permettre de changer complètement l'échelle des constructions et de répondre aussi à la question de la modernité technique du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle avec des schémas inouïs. Ce que vous voyez là, c'était incroyable, incroyable. C'était absolument nouveau. C'était inimaginable, parce que en gros, ça se construit dans un contexte où partout ailleurs on construit en pierre et des ponts qui sont de petite dimension. Donc là aussi, on commence à avoir des ingénieurs. Donc il y en a un qui est très connu, qui s'appelle Isambard Kingdom Brunel. Il se trouve que c'était un Français, quelqu'un qui était d'origine française, qui était formé dans les écoles d'ingénieurs françaises, je crois que c'était à l'école polytechnique, et qui est allé en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, il y avait peut-être plus de possibilités de se développer du point de vue, comment dire, de développer en gros des schémas nouveaux. Hein, c'était moins contrôlé, c'est un peu toujours le cas. On a toujours ces deux cultures. Et donc, il a importé, Brunel, un peu la figure de l'ingénieur, qui a rejoint celle de l'artisan très pointu. Vous voyez ? Donc, quand je dis il apporte la figure de l'ingénieur, il apporte notamment l'idée qu'on peut mettre ça sous équation. On peut mathématiser ça. Hein ? Si on revient en France, là, on est allé quasiment au bout du 19e siècle. Donc, il y a bien sûr d'autres ingénieurs. Je ne les présente pas tous. Je présente ceux qui sont vraiment connus. Vous avez Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, lui, c'est un ingénieur centralien, donc issu du sérail des ingénieurs français, qui a développé complètement tout ce qui est en la construction en fer pudelé, avec la tour Eiffel, bien sûr. Là encore, c'est le mariage d'un sens du matériau, d'un sens de l'entrepreneuriat, d'une façon, une approche qui est vraiment celle de la modernité et du progrès, complètement en accord avec la révolution industrielle, tout ceci marié à une bonne connaissance des mathématiques et de la mécanique. Hein ? Si on va, là, on est aux États-Unis, à peu près à la même époque que Eiffel, il y a Roebling qui a fait le premier grand pont haubané en câble de très grande dimension, que vous connaissez, hein, qui est à New York, le Brooklyn Bridge. Juste un peu plus tard, on a dans tous les pays, je dirais, notamment pays de culture occidentale. C'est un phénomène un peu occidental, même si ailleurs aussi on a des développements, mais qui peuvent se faire d'autres manières. C'est un peu un concept occidental, l'ingénieur, tel qu'il est apparu au 18e et au 19e siècle. Et donc, là, on est en Russie, qui est devenue l'Union soviétique. Et donc, Shoukov s'est mis au service de l'Union soviétique pour faire des ouvrages. Alors, ce qui caractérise aussi tous ces ingénieurs, on est toujours dans l'audace. C'est ça que Le Corbusier fêtait dans sa citation. C'est une sorte de quand il disait virilité, c'était penser plutôt à audace. Hein. Et donc, avec une tour, vous la voyez derrière. C'est une photo où on a deux tours, une tour qui est derrière, mais qui est faite avec une très grande économie de matériaux. et qui suppose donc une très grande maîtrise géométrique et mécanique de l'ouvrage, avec en plus des idées nouvelles sur les formes stables. Retour en France, on est là à l'orée de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'invention par Freycinet. Est-ce que vous savez ce qu'il a inventé, Freycinet? Hein? Ouais. Le béton précontraint. Donc, je vous ai présenté beaucoup d'ouvrages plutôt en fer ou en acier. Le béton, il a commencé à apparaître. Quand est-ce qu'il s'adapte de quand, le béton? Plus ou moins. Le béton armé. Ça date de quand? Hein? Non, 1892, le premier brevet. Donc vous voyez, et ça a apparu de manière très, très... C'est un peu comme l'artisanat en Angleterre, c'est apparu d'ailleurs plutôt en France, de manière très bricolée, par des entrepreneurs plutôt. Ce n'est pas tout à fait des ingénieurs, c'est des entrepreneurs un peu bricoleurs qui ont fait apparaître ça. Et puis peu à peu, ça a été pris en main par des ingénieurs. Et je dirais le grand ingénieur du béton, c'est Freycinet, puisqu'il a poussé le béton jusqu'à sa logique même, qui est de le précontraindre. Voilà. Donc ça, c'est un hangar à dirigeable qui a été construit à Orly, qui a été démoli, qui a été bombardé, donc détruit pendant la guerre, par ce grand ingénieur Freycinet. Il y a encore une entreprise Freycinet qui œuvre, grand ingénieur français. Un ingénieur suisse, là, donc on est dans du béton, des gens qui, tout ce que je vais vous montrer là maintenant, c'est plutôt le béton. Des ingénieurs qui ont travaillé ça, avec un ingénieur suisse qui s'appelle Robert Maillard, qui a fait des ponts dans les Alpes qui sont extrêmement beaux. Donc on commence à parler de beaux ouvrages d'ingénieurs, là. Donc tout ce que je vais vous présenter maintenant, ça va devenir quasiment des œuvres d'art ou d'architecture. Hein. Maillard. Nervi, grand ingénieur italien, qui a fait notamment les stades olympiques des années de 1964 à Rome, ou 60, pardon, 60 à Rome. Grand on va dire ingénieur du béton, et du béton dans des formes toujours très complexes, qui sont des formes complexes, mais pour des raisons mécaniques. En gros, il essaye de calquer des modèles mécaniques sur des constructions pour rechercher une efficacité, et en cherchant une efficacité, il va donner aussi une beauté en soi. Hein. Celui-là, vous le connaissez? Vous connaissez tous? Qui ne le connaît pas? Bon, donc vous devriez tous se connaître, parce que c'était l'ingénieur du pont de Gênes qui s'est effondré il y a 2 ans, ou 3 ans. Mais qui était un grand ingénieur et qui malheureusement dont la réputation est, je dirais, un peu cassée par cet effondrement. Et d'ailleurs là vous avez une image d'un pont qui ressemble beaucoup à celui de Gênes, mais qui est toujours en place pour l'instant, je ne sais pas, à moins qu'il soit remis en cause un peu. Et donc ça, c'est encore une des constructions très atypiques, toujours en béton. Des ingénieurs espagnols ou hispanisant, ou hispanophone, on va dire. Félix Candela, qui lui a développé des coques en béton extrêmement fines. Et dont la stabilité découle de la forme, vous voyez? Donc, c'est un géométricien, c'est un mécanicien, mais qui base son savoir de la géométrie. C'est un mathématicien. C'est-à-dire que c'est la maîtrise mathématique qui permet de réaliser cet ouvrage-là. Et le deuxième dont je voulais vous parler, qui est espagnol, Eduardo Torroja, qui était un des grands, grands ingénieurs, qui a plus ou moins créé Caminos, non? Ou en tout cas, qui était le directeur de l'école des ponts de Madrid, qui s'appelle Caminos. Il y a des élèves de Madrid ici? Oui, donc vous connaissez forcément Torroja. Et donc, même chose, qui a fait des ouvrages. Vous voyez ici un stade avec une couverture. Et quand on voit ça, si je le montre, c'est parce que c'est pour montrer que, vous voyez, ça, c'est la maîtrise technique qui permet de le créer. et qui permet même de l'imaginer. Et c'est ça qui fait, je dirais, l'extrême beauté d'un stade comme celui-ci. Plus que la beauté, c'est juste génial, quoi. Ça marche extrêmement bien, ça répond aux usages, et en plus, c'est bluffant. Voilà. Il y a, si on sort du béton, il y a des ingénieurs comme celui-ci qui ont travaillé avec des matériaux, et c'est très intéressant, et je pense que c'est un champ pour vous qui peut vraiment se développer. C'est le champ des... Comment je travaille avec des matériaux pauvres, vous voyez ? Au lieu de travailler avec juste de l'acier ou des matériaux, des aciers à très haute limite de résistance ou des bétons très performants, là, au contraire, je vais essayer de construire, mais avec du matériau pauvre. Donc, Eduardo Dieste, c'est un Uruguayen, dans un pays donc, qui n'avait pas forcément beaucoup d'argent, et il construit avec de la brique. Et il utilise la brique au mieux en lui donnant des formes structurelles à cette brique, et c'est ça qui va donner la résistance à ces ouvrages. Un Français qui... Alors, je suis pas sûr qu'il faille le mettre dans le registre des ingénieurs. C'est un entrepreneur qui a travaillé plutôt à petite échelle, qui a beaucoup travaillé avec la tôle pliée, qui était moins un calculateur, en fait. Il est un peu aux limites de l'ingénieur. J'en prouvais, vous en entendrez beaucoup parler. Hein. Alors là, on commence à passer dans une autre époque, qui est l'époque un peu plus farfelue. Et je vais vous présenter 3 ou 4 ingénieurs farfelus. Farfelus, alors je plaisante, ils ont construit, ils sont sérieux. Hein. Mais néanmoins, ils n'étaient pas du tout dans l'image de l'architecte rigide, de l'ingénieur rigide, qui applique les règles et un peu austère. Vous voyez d'ailleurs que dans les photos, on a fait exprès de mettre chaque fois des photos de ces ingénieurs. Toutes les photos précédentes, c'est pas très drôle, on va dire. Hein. Là, on commence à avoir des gens qui rigolent, hein, ou qui sont dans des positions un peu différentes. Et donc, Buckminster Fuller, c'était un esprit totalement atypique, un peu prophète, un peu philosophe et très ingénieur, qui a notamment développé un principe structurel qui s'appelle la tensérité. Vous en entendrez parler, je pense, pour ceux qui feront structure. La tensérité, c'est un système, c'est ça. Tensérité, c'est ça. C'est des structures où les éléments en compression ne se touchent jamais. Et qui a aussi développé des systèmes de coques résilles, comme celui-ci, c'est un radome, mais aussi comme le palais des sports à Paris, pour ceux qui... Donc on n'ira pas le voir, mais c'est quelque chose de Buckminster Fuller qui est à Paris. Donc, il a beaucoup écrit aussi, écrit sur le monde, la planète. C'est très intéressant. Par exemple, Buckminster Fuller, quand il rencontrait un architecte, il posait une question, mais alors, les gens, ils n'en revenaient pas. Ils disaient, mais combien pèse votre bâtiment ? Alors, mais généralement, on dit combien coûte votre bâtiment, hein ? Ou combien il y a de mètres carrés dans votre bâtiment. Non, lui disait combien pèse votre bâtiment, votre construction. Alors, combien pèse, par exemple, ce bâtiment ? Beaucoup. Ce bâtiment, il pèse très, très lourd. Parce que si on compte les fondations, tout ça, il pèse très lourd. C'est pour ça que ce bâtiment, il n'est pas très bien conçu, en fait. Il se dit écologique, au passage, mais... Hein. Lui disait, c'est très important de faire des bâtiments qui ne pèsent pas beaucoup. Parce que un bâtiment qui pèse, c'est un bâtiment qui impose énormément de déplacements de matériaux. Et le déplacement de matériaux, maintenant, on commence à voir ce que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire, le coût écologique de ce déplacement de matériaux est important. Donc, lui faisait des bâtiments comme ça, qui pesaient rien, qui pesaient peut-être, je sais pas, on est peut-être dans le 10 kg ou 12 kg du mètre carré. Vous voyez ? Alors que le bâtiment classique, ce toit-là, il doit peser 150 kg, 200 kg, 300 kg du mètre carré. Vous voyez ? Voilà. Donc lui, c'était un esprit comme ça, qui était un petit peu marginal et qui a fait des choses tout à fait intéressantes, étonnantes. Un autre farfelu, je dis farfelu, Fray Otto. On va en parler un tout petit peu plus, Fray Otto. Fray Otto, c'est... Il a fait des, des bâtiments avec des drôles de formes, mais chaque fois l'approchant du point de vue technique. Et alors lui, ce qui était particulier avec Froyotto, c'est qu'il a dit on va essayer de travailler en regardant ce qui se fait dans la nature. La nature est productrice de formes, des formes généralement hyper efficaces, très peu lourdes, très solides. Comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ça? On va en voir un exemple de ce qu'a fait Froyotto. Là, on arrive aussi maintenant dans chez des ingénieurs. Jörg Schleich, je pense que des ingénieurs que je vous présente, c'est le seul qui soit encore vivant. En fait. Jörg Schleich, qui est très âgé, qui est un ingénieur allemand et qui a aussi travaillé avec Froyotto. Et donc, et à la fin, je vous parlerai de Peter Rice, mais je vais rentrer un petit peu dans le détail de ce que ces deux-là ont fait ensemble, dans un exemple. Si je le fais, c'est parce que, encore une fois, je vais vous montrer l'ingénieur en situation et l'ingénieur comme acteur clé de construction. Je voudrais que vous compreniez qu'à l'École des Ponts, c'est ces ingénieurs-là qu'on forme. Hein? C'est vous, c'est ça qu'on forme. On ne forme pas des calculateurs. L'ordinateur, il sait calculer. Bien sûr qu'il faut maîtriser ça. Mais on forme des ingénieurs qui vont inventer des formes, qui vont participer à des formes, qui vont participer à des projets. Donc, ce qui a été le cas de tous ceux que je vous ai présentés jusqu'à présent. Là, on voit Froyotto sur une résille, parce qu'il a fait beaucoup de constructions en résille, c'est-à-dire en résille tendue. Et là, on voit Jörg Schleich, jeune, hein, maintenant il est très âgé, avec je ne sais pas qui là, à vrai dire, mais devant la maquette, ou une photo de la maquette du stade olympique de Munich. Est-ce qu'il y a des gens de Munich ici ou non? Non. On a des accords de diplôme avec Munich, mais je ne crois pas qu'il y en ait cette année. Donc à Munich, il y a un stade olympique qui date. En fait, il y a eu les Jeux olympiques en 1972. Et c'est un stade incroyable que je voudrais vous présenter rapidement. Là, on en voit la maquette qui a été faite par un architecte qui s'appelait Beniche. Donc, à la fin des années 60. La maquette, c'est la fin des années 60. À l'époque, il y avait un chancelier. Je vous raconte l'histoire parce que chaque fois que vous irez dans les visites, on vous racontera des histoires. Parce qu'en fait, votre travail, il est dans des histoires. Vous voyez, c'est vous qui ferez l'histoire, d'une certaine manière, quand vous allez travailler. Mais ce sera toujours dans des histoires humaines, dans des histoires politiques, dans des histoires culturelles, dans des histoires technologiques, etc. Donc je vous raconte les histoires, parce que l'ingénieur, il n'est pas insensible à ça, au contraire. Et donc, l'histoire de l'arrière-fond de ce projet olympique, c'était de faire un projet olympique en 1972 à Munich, qui soit l'exact inverse du projet olympique ou des Jeux olympiques de 1934, je crois, à Berlin, sous Hitler. En gros, il y avait les Jeux olympiques en Allemagne sous Hitler, et on a donné les Jeux olympiques en Allemagne en 72, avec l'idée qu'ils allaient prendre le contre-pied. Et à l'époque, il y avait un chancelier qui s'appelait Brandt, qui voulait que ce soit les Jeux olympiques qui expriment la démocratie. Et la démocratie, l'ouverture d'esprit. Et donc, l'architecture, généralement, elle va avec ça. Il fallait absolument éviter une architecture monumentale, une architecture qui s'impose. Il fallait une architecture qui soit presque un paysage. Et donc, il y avait une zone près de Munich où il y avait toutes les décombres de la guerre. Vous voyez, toutes les pierres qui avaient été rassemblées, elles étaient là. Et donc, on a fait un paysage avec ça. Et ce qui se construit, parce qu'à la fin, il faut construire quand même, ce qui se construit, se marie avec le paysage. Vous voyez. Et donc, ce qu'a fait l'architecte, mais bien sûr que l'architecte connaissait l'ingénieur, connaissait Fraiotto. Hein, ils avaient travaillé ensemble, main dans la main, tout de suite, dès le premier coup de crayon. Donc l'architecte, il a dit, ben, le stade, il y a les contraintes du stade, c'est des gradins, etc. Le stade, ça va être comme un mouvement de terrain. Et la couverture du stade, il faut que ce soit comme un nuage. Vous voyez. Mais qu'est-ce que tu peux faire, toi, l'ingénieur, qui soit comme un nuage, vous voyez. Et Fraiotto, alors bien sûr, ça ne venait pas de nulle part. Il y avait déjà toute une réflexion sur ce qu'on appelait les structures tendues. Et donc Fraiotto a proposé des structures tendues. Au début, c'est des images comme ça, très simplistes. Et à la fin, c'est devenu ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout le processus, parce que tout ça, c'est très technique. C'est à la fois très poétique et très technique. Et donc, c'est parce qu'il y avait toute une technologie, une connaissance des surfaces minimales, et notamment à partir des bulles de savon, quelle est la qualité d'un film de savon du point de vue géométrique, et donc la qualité d'une surface minimale, et qu'est-ce que ça peut amener comme intérêt pour la fabrication d'un grand toit le plus léger possible. Donc, il y avait toute cette réflexion-là. Fraiotto donc travaillait avec des maquettes, d'ailleurs. Il faisait des recherches de formes à partir de films de savon. Ensuite, il passait à des maquettes. Je vous montre un peu le processus. Il passait à des maquettes où, là, par exemple, on faisait des mesures de pression de vent. Puis, parce qu'on était encore à l'époque où les ordinateurs étaient un peu pas assez puissants pour traiter des choses comme ça, des maquettes qui permettent de voir comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, on a ici des poids qui sont suspendus, qui représentent par exemple de la neige, hein, sur la maquette, à une échelle, je ne sais pas, ça doit être le 20e, quelque chose comme ça. La maquette, elle était instrumentée avec plein de systèmes de jauge qui permettent de savoir à la fois quelles sont les déformées et quels sont les efforts. Voilà. Et voilà. Alors, je vous ai présenté tout à l'heure, je vais vous présenter rapidement, je reviens en arrière. J'ai du mal à... Voilà. Je vous ai présenté Schleich. En fait, Schleich, le jeune Schleich à l'époque, Fraiotto, c'était un architecte qui est devenu ingénieur. Il a dit, on va tout démontrer par maquette. En fait, il avait une intuition qui était complètement juste, mais il n'arrivait pas à le prouver. Et vous verrez ça quand vous serez ingénieur, il y a toujours, la société, elle est très frileuse. Et elle demande notamment plein de justifications pour être sûr que les choses vont tenir, surtout pour les Jeux Olympiques. Et Fraiotto, avec ses maquettes que je vous ai montrées, il n'arrivait pas à prouver les choses. Et donc c'est là où il y a le jeune Schleich, qui était très bon mathématicien, et qui travaillait sur les ordinateurs, a réussi en fait, il n'était pas tout seul, mais il a réussi à appliquer à ce bâtiment un méthode de calcul tout à fait nouvelle, qui était celle de la relaxation dynamique, qui a permis en fait de prouver le bon fonctionnement. Donc c'est là où Schleich, en fait, jeune ingénieur, est venu alimenter l'idée un peu géniale de Fraiotto. On est souvent dans des phénomènes comme ça, d'interaction entre différentes générations, différentes personnes, qui font qu'à la fin, les choses peuvent se fabriquer. C'est rarement un ingénieur tout seul qui travaille dans son coin. Donc, voilà, on voit la construction de cette résille. On peut marcher dessus, hein, même. Ce qui est très beau dans une résille comme ça, c'est que c'est juste des câbles et un nœud répétés à l'infini. Donc c'est très complexe, mais à la fin, le détail lui-même, il est très, très simple. Et voilà, donc la résille étant tendue, on a mis des plaques de polycarbonate dessus, qui étaient en soi déjà pas très simples. Et voilà. Est-ce que vous trouvez ça beau? Qui ne trouve pas? Et vous êtes complètement libre d'avoir votre avis. Est-ce qu'il y en a qui... Quel est votre point de vue sur ce truc-là? Est-ce que c'est moyen, intéressant? Donc c'est pas mal. Non mais ce que je veux dire, c'est que... Et on va vous quand vous allez visiter des choses à Paris, alors il n'y aura pas des choses aussi impressionnantes, je dirais, par l'échelle. Parce que Paris est une ville serrée. Et ce serait super d'aller à Munich, d'ailleurs, pour aller voir. Il y a plein de choses intéressantes à Munich. Donc ce ne sera pas aussi impressionnant, sauf la Tour Eiffel, peut-être. Mais quand vous allez... aller faire des visites à Paris, vous allez vous demander est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, est-ce que ça valait le coup. Par exemple, ça, ce stade-là, c'est combien de temps de la vie de Fraiotto, selon vous? Hein? Ouais, 10 ans. 10 ans. Est-ce que c'était une vie cool, sympa, du 9-5 heures? Non. C'était, par exemple, au moment où ils devaient prouver que ça marchait et qu'ils n'y arrivaient pas avec leur maquette, ils ont engagé plein d'étudiants pour que ce soit des 2-8, pour que l'agence travaille en permanence. Parce qu'il y avait les Jeux Olympiques, c'était une date fixe. Donc, c'est du stress. C'est 10 ans de sa vie. C'est pas lui tout seul. C'est, vous voyez, donc la question qui se pose toujours, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que c'est pour l'argent? Je ne pense pas. Je pense que Fraiotto n'a pas gagné beaucoup d'argent, monsieur. Il y en a peut-être qui gagnent de l'argent, il y en a d'autres qui ne gagnent pas d'argent. Donc, il y a une sorte d'engagement que vous vivrez aussi en tant qu'ingénieur, ou non, ça dépend de vous, hein. Soit vous voulez, soit vous ne voulez pas. Mais en tout cas, tous ceux qui ont fait ces choses-là, c'est un engagement qui est très fort et donc qui fait que forcément vous posez la question, mais pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que je l'aime? Est-ce que moi j'aurais fait autre chose, etc. Hein? Voilà. Alors, pour terminer, le dernier ingénieur, que je connais très bien parce que j'ai travaillé avec lui, mais il est décédé depuis déjà maintenant longtemps, c'est Peter Rice. Je voudrais aussi vous en parler parce que ça fait un peu partie des ingénieurs, je disais un peu farfelus, c'est pas tout à fait le bon terme, mais en gros des ingénieurs, vous voyez, qui sortent de ce cadre un peu strict, austère. Voilà. D'ailleurs, vous le voyez là sur une photo, où c'est, généralement, c'est pas comme ça qu'on présente un ingénieur. Hein. Là, il voulait juste prouver qu'il y avait une stabilité d'une poutre à câble, que vous irez visiter d'ailleurs, en se suspendant à ça, et en disant, vous voyez, c'est pas évident, mais c'est bien stable. Voilà. Donc, c'est Peter Rice. Avant de vous montrer un peu ce qu'il a fait, si on a le temps, j'ai le temps. 20 minutes, ben, ça ira. Tout ce que je vous ai montré là, tous les ingénieurs que je vous ai montré là, vous avez remarqué, c'est des messieurs. C'est un métier, mais c'était vrai aussi des architectes. Tous les architectes, si on regratte un peu, je dirais, jusqu'il y a 20 ans, c'était aussi des messieurs. Hein, à des quelques exceptions très rares. Après. Les ingénieurs, ce n'était pas d'exception. D'ailleurs, les écoles n'étaient ouvertes qu'aux garçons. Hein, jusque assez récemment. Donc, vu que je vous présente des choses de l'histoire, c'est des messieurs. Mais il y a une ingénierie des femmes à développer. Donc, dans 50 ans, quand je viendrai refaire la conférence, j'espère qu'il y aura plein de photos d'ingénierie de femmes qui va forcément être différente. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez, voilà la relève. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que on voit même, il y a beaucoup plus, ben vous êtes là presque à parité, peut-être pas tout à fait, mais presque à parité, et on voit beaucoup plus dans les agences aussi d'ingénieurs femmes qui prennent le relais et qui vont forcément amener un œil différent. Et donc, notamment, le côté ingénieur viril contre architecte un peu morose, C'est bien sûr, c'était un peu une joke. Hein. C'était un peu, c'est bien sûr que ça doit être complètement revu. L'image de l'ingénieur que je vous ai présenté, hyper musclé, c'est plus d'actualité. C'est pour ça que je termine avec cet ingénieur-là qui se démarque beaucoup, de la même manière que Fraiotto ou que Buckminster Fuller, déjà de l'ingénieur voilà, qui est un peu le père austère. Hein. Lui, très vite, sa vie et ses réalisations, il a commencé en travaillant sur l'opéra de Sydney à partir d'une esquisse de l'architecte qui était très inspiré, qui était celle-ci. Donc, je vais vous présenter rapidement, hein, de manière assez factuelle, parce que ce que je voudrais vous présenter chez cet ingénieur, c'est que contrairement à Nervi ou à plein d'autres, il a une vie un peu hétéroclite en tant qu'ingénieur. C'est-à-dire qu'il était touche à tout. Il a été chercher plein de matériaux différents, etc. Donc là, c'était avec du béton. C'était l'opéra de Sydney. Mais avec surtout un problème géométrique. Ce qui était complètement nouveau à l'époque, c'était comment on va gérer la géométrie. Et lui s'est intéressé beaucoup à la géométrie. Donc là on voit une maquette d'essai en soufflerie pour voir comment le vent fonctionne dessus. Là, toujours à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'ordinateurs, donc des maquettes pour prouver la stabilité des coques. Et donc là, on voit la construction du musée, de l'opéra, pardon, avec des éléments en béton préfabriqués. Et ce sur quoi Pitores, qui était jeune ingénieur à l'époque, à travailler, c'était sur la géométrie de ces éléments-là, de manière à vous trouver des moyens de rationaliser la fabrication de ces éléments. Quand on travaille sur la rationalisation d'un élément comme ceci, on y travaille pendant un an ou un an et demi ou deux ans. C'est pas une semaine. Sachant bien sûr qu'on va jusqu'au bout de la fabrication. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver quelles sont les racines du problème de fabrication pour ensuite le résoudre et ensuite l'appliquer. Et si on ne fait pas ce travail qui dure un an et demi, qui est un fastidieux, long travail d'ingénieur, eh ben, il n'y a pas d'opéra à la fin. C'est la condition de l'opéra. Voilà. Ou de l'opéra dans cette forme-là. Hein. Qui était à l'époque considéré comme tout à fait nouveau, à tel point que les Australiens ont dit: on va arrêter avec l'opéra. Ils ont perdu confiance au bout de deux ans. Ils ont dit, on arrête. On va recommencer à zéro. Et c'est les ingénieurs qui ont dit, non, vous inquiétez pas, on va y arriver. Voilà, on voit le montage de ces éléments. Voilà, et après, quand c'est terminé, tout le monde est heureux. Ça, c'est un chapeau en forme d'opéra de Sydney. Peter Rice, il a travaillé ensuite pour faire le Centre Pompidou. Il était l'ingénieur du Centre Pompidou. Vous aurez une présentation, une séance entière sur le Centre Pompidou. Donc, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. On va vous le représenter complètement, hein, dans la manière dont il a été conçu, et vous allez le visiter. Peter Rice, il a fait une voiture avec Renzo Piano. Il était très, très proche d'un architecte qui s'appelait Renzo Piano. Et il a fait une voiture pour Fiat. Donc, vous voyez, c'était un esprit très versatile. Et Fiat, qui avait l'intelligence de dire, on va peut-être demander à des gens qui ne sont pas du sérail pour inventer une voiture, ils ont demandé à Piano et à Peter Rice de travailler. Donc c'est une voiture qu'on voit là, qui est avec bien sûr des concepts tout à fait différents, pas forcément meilleurs, mais différents de ce que les gens qui font que des voitures vont inventer. Et donc avec notamment l'idée d'une interchangeabilité, en gros d'une structure, et puis une sorte de panneau d'habillage, je peux quasiment changer mon habillage en fonction de mes souhaits. Donc là, on les voit travailler. Et là, on voit la voiture finie, qui était plus ou moins, à l'époque, on est dans les années 70, hein. Donc l'ancêtre de la Uno de Fiat. Peter Rice, il a fait des structures tendues, légères, et notamment des structures avec des architectes qui s'appelaient Future System, qui étaient des architectes qui voulaient un peu comme Buckminster Fuller, aller très très loin dans l'innovation, une nouvelle forme, des anglais, très très anglais, vous voyez. On va juste changer un peu la manière de construire. Donc là, c'est un système temporaire pour une exposition sous un pont sur la South Bank à Londres. Donc, les architectes, ils ont imaginé l'idée, en gros. L'ingénieur, il est venu avec tout le système. C'est l'ingénieur qui a proposé comment on allait construire ça, et même plus que ça, comment on allait le construire. C'est l'idée même de la construction. Donc, c'est de la toile tendue sur quelque chose qui est très original, parce que je me souviens très bien de Peter Hayes l'expliquer. Il a dit, en fait, je vais utiliser des cannes à pêche. Alors, ce n'est pas des cannes à pêche. Vous voyez le matériau des cannes à pêche ? C'est très résistant, très souple. Donc, je vais utiliser un matériau qui est très résistant, très souple. C'est le même matériau que les cannes à pêche, c'est-à-dire c'est la fibre de verre ou de la fibre de carbone. Je crois qu'en l'occurrence, c'était de la fibre de verre, sur laquelle on va tendre la toile. Donc, vous voyez là la structure avant de tendre la toile. C'est la sorte de canne à pêche qui est là et qui ensuite est simplement raidie par des câbles. Donc, des nouveaux matériaux avec des nouvelles, enfin dire, mises en œuvre de manière la plus intelligente possible pour avoir quelque chose qui apparaisse comme le plus léger possible. Voilà. Avec un problème, c'est que ça s'est effondré. Donc, ça arrive. Hein, et on a dû refaire après. Un autre exemple qui est très caractéristique du travail de Peter Hayes, toujours avec piano. Là. Ça, c'est à Paris, mais c'est un pavillon qui était pour IBM qui s'est déplacé. Et en fait, dans ce pavillon, l'idée, c'était que la structure soit faite par les matériaux qui servent à faire l'enveloppe. Donc, vous avez ici une structure en bois, une autre structure en bois, et entre les deux, vous avez une coque en polycarbonate qui est structurelle. Ça, c'est l'ingénieur qui dit à Piano. Piano dit, comment est-ce qu'on peut faire léger? J'ai un schéma là, qu'est-ce que tu en penses? C'est très interactif. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? On se tutoie souvent. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai un schéma où j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de structure et avant dessus un habillage. J'aimerais bien que ce soit transparent. Et Peter Hayes dit, mais on peut, pourquoi pas, essayer de travailler avec les polycarbonates. Vous voyez, ça c'est un dessin que j'avais retrouvé dans les carnets de croquis de Peter Hayes. C'est des dessins qui se font, c'est comme ça que se fait la conception. Des dessins qui se font, alors peut-être que là c'est un tout petit peu après, mais avec Piano, avec l'architecte, on interagit et il y a, mais pourquoi, vous voyez, là c'est un peu comme un treillis, et l'architecte dit, mais j'aimerais bien que ça, ce soit l'enveloppe, et que ce soit transparent, est-ce que c'est possible? Et finalement, ce que Peter Hayes propose, c'est de faire ça en polycarbonate, et ça en bois. Après, il y a les petits calculs qui commencent à montrer comment c'est possible. Et après, il faut le réaliser. Il faut trouver les nœuds. Il faut trouver comment ces matériaux différents vont respirer ensemble. Après, il faut aller dans le détail. Dans le détail, c'est toujours compliqué. Parce que le polycarbonate, il a ses tolérances, il a son fonctionnement en dilatation thermique, etc. Il faut marier tout ça avec le bois. Le bois, lui, s'assembler dans le bois, c'est très difficile. Le bois, il n'aime pas les assemblages. Donc là, il y avait d'ailleurs une idée complémentaire. Pardon. Voilà. Oups. L'idée complémentaire, c'est de dire, on va passer par une pièce d'aluminium moulée pour assurer l'assemblage de tous les matériaux. Vous voyez, là, on a le bois qui arrive sur un nœud, le polycarbonate qui arrive sur un nœud, etc. Et tout ça, c'est traité par une pièce d'aluminium moulée. Ça, c'est le travail de l'ingénieur. Très, très proche de l'architecte, bien sûr. Même chose, encore un autre projet, toujours avec piano. C'est une sorte de lame brise-soleil. C'est fait en ferro-ciment, là. On voit la fabrication de ces lames. Tout ça, on l'essaye en atelier, on se déplace en atelier. On va voir comment on peut le fabriquer. Le ferro-ciment, c'est un béton de granulat très, très, très fin qui est en fait étendu sur des grilles d'acier, en fait. Hein. Ce qui fait que vous pouvez avoir quelque chose qui est une grande finesse. C'est un matériau, en gros, c'est du béton, mais très fin. Hein. Voilà. Et le projet que vous irez visiter, c'est à la Villette. Ça, c'est un projet à la Villette que vous irez visiter. C'est le verre. Là, le verre est utilisé comme matériau structurel. Et puis, il a fait la gare TGV de Roissy, qu'on voit là. La gare TGV de Lille, qu'on voit ici. Il a fait le Louvre, la couverture du Louvre. Ça, c'est toute une histoire parisienne de Peter Rice. J'arrive pas. Voilà, le Louvre. C'est les couvertures du Louvre. Vas-y, continue. Un pont que vous irez visiter à la Défense. Continue. Des constructions en pierre, c'est juste pour montrer la versatilité des constructions en pierre. Si on voit, c'est pour l'exposition universelle de Séville. Si on va un peu plus précisément dans ces constructions, on peut continuer à les voir. Vous voyez, ça c'est la pierre précontrainte. Dans le détail d'après, on le verra encore mieux. Là, on voit ces petits croquis de comment ça pouvait fonctionner. Voilà. Vas-y. Et là, on voit comment on assemble la pierre de manière à créer de la pierre précontrainte. Vas-y. Une œuvre d'art en aluminium à laquelle j'ai participé. 15 mètres de haut par 15 mètres de large, qui est extrêmement belle. Tout en aluminium soudé, qu'on a dû calculer, bien sûr. Hein. Et puis, il a travaillé sur les aéroports, ce qu'on voit là. Et si tu continues. Voilà, ça, c'est le dernier projet. Je voulais vous montrer l'ensemble de ces projets pour une chose concernant cet ingénieur. C'est l'ouverture vers plein de choses différentes. Et notamment, mais avec toujours un fond technique ou scientifique. Ça, c'est le dernier projet de sa vie. Il avait un cancer du cerveau. Il a plus ou moins arrêté de travailler, qui a duré un an. Il a plus ou moins arrêté de travailler. Et ses dernières vacances, il est allé dans le sud de la France, chez un chef d'orchestre d'opéra, ou un metteur en scène d'opéra, qui s'appelle Camerlot. Et qui avait une propriété dans laquelle il voulait créer un lieu, un théâtre ouvert, dit théâtre de la pleine lune. Et le principe, c'est que c'était de l'opéra et il n'y avait pas d'éclairage. Et c'était télévisable. Donc, c'était des opéras qui ne se déroulaient que en temps de pleine lune. Et on arrivait à capter suffisamment la lumière lunaire pour éclairer l'opéra. Donc en fait, il avait travaillé avec Peter Rice pour développer, puis avec des ingénieurs lumière, mais qui dépendaient de Peter Rice, des sortes de systèmes de tôles réfléchissantes déformables qui pouvaient se déformer en forme de paraboloïdes pour concentrer le rayon de la lune vers la scène. Tu peux me passer, parce que j'arrive plus à passer. Voilà, on le voit ici, ce système. Et là, Peter Rice s'était beaucoup intéressé à ça parce que c'était en fait un projet qui était devenu très rustique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de complexité de fabrication. Vous voyez, c'était, et même, il y avait une sorte de. C'est pour ça qu'il était en vacances là avec toute sa famille. Ils ont fabriqué les choses eux-mêmes. Mais néanmoins, je dirais, géométriquement, c'était très précis. De manière à ce qu'on puisse déformer la tôle et lui donner cette forme de paraboloïde qui convient exactement à la partie de la scène qu'on veut éclairer. La dernière photo, Voilà, là on voit la scène là, pas la scène mais les gradins, les dernières photos. Je crois que c'est un peu le reflet de la Lune, enfin comment ça. Alors je ne vous présente pas exactement comment ça fonctionnait, c'est par un système de déformation élastique de la tôle que on parvient en fait à donner la géométrie qui permet d'éclairer la scène de théâtre. C'est juste pour mon. Enfin, ce ne sont que des exemples comme ça. La plupart des ingénieurs que je vous ai montrés, ils avaient souvent à la fin de leur vie, ils en profitaient pour faire quelquefois un petit peu autre chose, toujours en tant qu'ingénieur. Par exemple, Eiffel, il s'intéressait beaucoup au vent, il a utilisé la tour Eiffel pour faire des expériences sur le vent. Et il a créé la première soufflerie au vent. Il a défriché les phénomènes d'aérodynamique. Hein, et donc il y a toujours une soufflerie Eiffel à Paris, qui est celle qui a été créée par Gustave Eiffel. Et Gustave Eiffel, donc c'était sa marotte de fin de vie. Schleich, en fin de vie, s'est dit je vais développer des tours de 1 km de haut pour créer des centrales solaires. Vous voyez, Pythorès, c'était ça. Et on s'aperçoit en fait que beaucoup d'ingénieurs avaient des idées de construction un peu originales qu'ils pouvaient exprimer généralement en fin de vie. Je voulais vous montrer là, vous sortir d'une sorte d'image de l'ingénieur. L'ingénieur, ce n'est pas un bureaucrate. J'espère que vous ne serez pas des bureaucrates, au passage. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour dire non, ça ne marche pas, ce n'est pas possible. C'est quelqu'un qui, dans l'esprit moderne d'ailleurs, était pour dire oui, c'est possible. Vous imaginez pas, vous croyez que c'est impossible, mais c'est possible. En fait, les tours Aura, là, ou les candélabres que je vous ai présentés, ils faisaient des choses que personne n'imaginait que c'était possible. Hein. Donc, ces ingénieurs-là, vraiment, ils ont participé à l'architecture, ils ont participé à plus que ça, à la construction de notre paysage dans lequel on circule. Justement, en étant extrêmement audacieux. Je voulais vous présenter cette figure-là de l'ingénieur, sachant que vous allez la retrouver dans les différentes visites et les différents projets qu'on va vous présenter sur Paris. Hein? Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Ok. Donc. Qui prend le relais.
Bonjour à tous. Donc, plus proche, là vous m'entendez bien. Et donc, je m'appelle Isabelle, Laurie m'a présenté avant. Je suis architecte ingénieur des bâtiments des formations et en tant que, enfin, architecte en tant que professionnel. J'ai toujours travaillé en tant qu'architecte. Aujourd'hui, je vais vous présenter les multiples acteurs qui sont derrière un projet de construction. Donc, Bernard vous a déjà parlé des ingénieurs, aussi de la figure de l'architecte. Il vous a parlé d'autres multiples acteurs qui peuvent être derrière, pas si précisément que je vais les présenter maintenant, mais c'était pour continuer sur l'idée qu'il n'y a pas un seul professionnel derrière un projet de construction, un projet d'architecture, par exemple, ou un projet de génie civil, mais qu'il y a toute une grande diversité, comme disait Vitruve, des études et des connaissances qui sont derrière cet objet construit. Donc, je voulais commencer par quelques phrases de Vitruve. Vous connaissez, vous avez lu, enfin, vous avez étudié un peu Vitruve? Du tout? Ok. Vitruve, c'est un architecte romain qui est né et vécu un siècle avant la naissance de Jésus-Christ. C'est un architecte qui va écrire un traité très vaste, très long, quelques volumes qui parlent de l'architecture, mais en sachant qu'à cette époque-là, l'architecture comprenait aussi des ouvrages autres que les bâtiments, comme les aqueducts, les thermes, même les ports. Il va traiter tous ces différents ouvrages à travers les mots architecture dans son traité. En français, ça s'appelle à propos de l'architecture, je crois. Bon, c'est écrit en latin, mais il y a des traductions. Si jamais vous êtes intéressé, il se trouve à la bibliothèque. Un peu compliqué à lire, mais il y a quand même des choses qui restent d'actualité. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle déjà de l'architecture comme une science qui doit être accompagnée d'une grande diversité d'études et de connaissances par les moyens desquels elle juge de tous les ouvrages et d'autres arts qui lui appartiennent. Donc, en effet, le savoir de l'architecte est riche d'un assez grand nombre de disciplines et de connaissances variées. Il faut qu'il soit lettré, expert en dessin, savant en géométrie, qu'il connaisse un assez grand nombre d'œuvres historiques, qu'il a écouté avec attention les philosophes, qu'il sache la musique, qu'il ne soit pas ignorant en médecine, qu'il connaisse la jurisprudence, qu'il a des connaissances en astronomie. Enfin, et après, dans les premiers volumes de son traité, il va traiter toutes ces disciplines, une par chapitre. Ce qui est intéressant, oui, ça parle des ingénieurs. C'est ça que je voulais dire, c'est pas uniquement l'architecture. À cette époque-là, enfin, vous connaissez la figure de Leonardo da Vinci, il était architecte, ingénieur, géomètre, dessinateur, artiste, il était tout. C'est pas ça l'idée aujourd'hui, même à l'époque, il fallait pas être tout en même temps, mais il faut quand même avoir des connaissances des différents arts. C'est ça qui fait la richesse d'un ingénieur, comme vous allez l'être, vous l'êtes déjà. Ce n'est pas uniquement savoir de ce que vous apprenez ici à l'école, mais aussi à travers vos amis, d'autres personnes que vous allez rencontrer, d'autres disciplines, que vous allez enrichir votre sac à dos d'expérience et que vous allez pouvoir après peut-être inventer à travers toutes ces expériences que vous avez accueillies petit à petit dans votre chemin. Donc, bon, derrière un projet, en effet, il y a différentes personnes, des professionnels, des experts dans des différents domaines aujourd'hui. Et juste avant de passer sur la suivante diapositive, Vitruve parlait aussi, ça, peut-être ça vous parle plus, des trois pieds de l'architecture, donc firmitas, solidité, benustas, beauté, utilitas, utilité. Une œuvre construite, en effet, doit être solide, belle, utile, d'après lui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pas uniquement l'architecte s'occupe de la beauté, l'ingénieur de la solidité, les clients, les commanditaires de l'utilité, mais chacun, derrière son rôle, peut être intéressé par ces trois pieds. Et c'est ça qui va faire beaucoup plus intéressant l'œuvre à la fin. J'ai voulu reprendre quelques images des ingénieurs. Bon, il y a notamment deux ingénieurs dont Bernard a parlé avant. Eduardo Torrojas, c'est un ingénieur espagnol très connu, surtout en Espagne, je ne sais pas si ailleurs, sûrement. Alors, c'est intéressant déjà que derrière ces projets, il sort souvent avant qu'il est architecte. Donc là, c'est l'hippodrome de la Zarzuela, c'est un de ses projets les plus connus. Et souvent, on ne sait pas qui sont les architectes, en fait. On ne connaît pas ces noms. Bon, c'est intéressant parce que, pourquoi pas, hein, c'est ici l'ingénieur, en effet, qui a fait une prouesse de cette œuvre construite. Mais j'ai voulu encore vous montrer une autre image à droite qui montre quelques étudiants. C'était dans les années 20 en Espagne, donc c'était encore un pays moderne avant la dictature, la guerre civile. Il y a différents profils, des artistes, des musiciens, des poètes. Il y a ici un poète très connu espagnol, qui est né à Grenade, ma ville, qui s'appelle Federico García Lorca. Lui, il était poète et dramaturge. Il forme partie de tout un groupe d'artistes à l'époque qui vont échanger, qui vont partager des envies, des connaissances. C'est tout un contexte intellectuel qui est derrière une œuvre construite. Il n'y a pas juste une personne, un ingénieur, il n'y a pas juste l'architecte qui est derrière la photographie, qui a pris la photographie, qui formait partie de ses étudiants. Il y a aussi d'autres personnes qui ont partagé des envies d'une ville nouvelle, peut-être, avant de voir ces œuvres qui sont aujourd'hui finies et existantes, quelques-unes. Il y a aussi Luis Buñuel. Vous le connaissez peut-être. C'était, il travaillait à côté de Salvador Dalí pour un court-métrage des cinémas muets, si je ne me trompe pas, un chien andalou. Il a travaillé à Paris avec des Parisiens. Lui, il a eu plus de chance parce qu'il est parti juste avant la guerre ou pendant la guerre et il est parti au Mexique. Il a vu une longue vie, mais Federico, lui, il est mort pendant la dictature. Bon, c'est pour vous donner un peu de contexte, pour que vous sachiez que voilà, il n'y a pas que les personnes qui travaillent derrière les projets, mais tout un peuple qui est un temps, qui cohabite en même temps avec ces projets. Cette image célèbre du centre Pompidou, pendant la construction, donc Peter Weiss, Renzo Piano, Richard Rogers, donc c'est les architectes, l'ingénieur du bâtiment. Oui, alors, Peter Weiss, il est là. Renzo Piano, il est là. Richard Rogers, ici. Donc, on voit toujours ces trois personnages derrière ces bâtiments. Mais déjà, pendant les concours, il y avait quelques autres personnes qui sortait aussi. Là, c'est une image du concours, un concours international qui a été fait pour ces projets. Il y a aussi Sue Rogers, qui était la femme à l'époque de Richard, et Ted Happel, qui était l'ingénieur chef de chez Arup, de Peter Rice. Bon, il y avait évidemment beaucoup plus d'autres personnes derrière. Mais il y a aussi tout un jury qui c'est finalement des décideurs de ces projets. Qu'est-ce qu'on va construire? Pourquoi ce bâtiment il est pertinent et pas un autre? Et c'est qui ces jurys? Ici, par exemple, on peut voir des architectes connus à l'époque, comme Oscar Niemeyer, architecte brésilien. Il y a des Brésiliens ici? Oui. Il y a Philippe Janson, américain, connu pour être un des pères du modernisme et plus tard du postmodernisme, et deux Français, Jean Prouvé, architecte designer, et Émile Heillot, architecte. Et pour finir avec cet exemple, la Fondation Louis Vuitton à Paris, vous l'avez déjà visité, vous l'avez vu? Pas encore? Bon, c'est un des projets qu'on va traiter pendant notre cours cette année. Alors, ici, on voit un croquis des Franck Gehry, qui est très célèbre par ses croquis, d'ailleurs. Et ici, une image très parlante, parce que on a la figure du client, du commanditaire, derrière. Il y a deux personnes ici, face à Derrière, on a son navire comme si ça serait un objet qui vient d'atterrir sur Terre. Et l'image qui sort du magazine Paris Match dit Franck Guéry, un des plus grands architectes des Andes, et Bernard Arnault, PDG des LVMH, devant l'air joyeux, qui ouvrira le 27 octobre. On dirait qu'il n'y a que ces deux personnes qui ont construit cet énorme bijou et ils sont toutes fiers. Évidemment, il y a eu beaucoup de personnes derrière qui ont travaillé sur ce projet. Les clients, bien sûr, c'est une figure importante. C'est lui qui est le porteur du besoin, qui est le porteur du projet. C'est lui qui va dire, je vais construire ces projets-là dans cet endroit. Souvent, il a un terrain, avec ses budgets, avec ses délais. Et après, il va commander à l'architecte ou l'ingénieur, en fonction, si ce n'est pas de l'architecture, c'est un autre type d'ouvrage, qu'il dessine son projet. Mais c'est lui qui va être toujours derrière toutes les décisions les décisions les plus importantes qui vont se prendre. Alors, toutes ces images sortent d'un livre qui a été publié en même temps que l'inauguration du bâtiment a été faite. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on peut voir toute une liste des architectes et ingénieurs qui ont participé pendant la construction, enfin, pendant les études et la construction du bâtiment. Il y a aussi des remerciements à toutes les entreprises qui ont construit, qui ont fait possible la construction du bâtiment. Et vous pouvez imaginer que déjà derrière les mots Vinci, il y a plusieurs personnes, des centaines de personnes qui ont travaillé, qui ont passé des années de leur vie, à travailler sur les projets. Parce qu'en plus, des projets comme ça, ça dure des années. Hein. Donc, on a le temps d'avoir des enfants, de déménager. Là, par exemple, je voulais juste lire, parce que ici, c'est trop petit, mais on a, par exemple, compagnon des grosses œuvres, un maçon, une conductrice des travaux, un peintre, un métallier, un plâtrier. Des profils qui sont tout à fait importants aussi pour faire la construction du projet, pour les percevoir tels qu'on les voit aujourd'hui. Bon, si on simplifie ces mots ces mots français un peu compliqués à comprendre quand on les voit pour la première fois, qu'est-ce que c'est les émois? Bon, les émois, c'est la première personne qui veut construire. C'est la maîtrise d'ouvrage, effectivement, ou maître d'ouvrage. Oui, parce qu'en France, on aime beaucoup utiliser comment on appelle ça, des siècles, abréviations, enfin, des abréviations. Les maîtrises d'ouvrage, c'est les porteurs du besoin. Ils définissent l'objectif, les délais et les budgets du projet. Voilà, c'est les commanditaires, c'est les clients. Qui est derrière? Ça peut être des particuliers, par exemple, pour faire les projets de sa maison. Des promoteurs immobiliers, investisseurs, industriels, commerçants, l'État ou une collectivité locale. La maîtrise d'ouvrage va engager les maîtres d'œuvre pour concevoir son projet. Les maîtres d'œuvre conçoivent et dessinent les bâtiments. Il fait valider chaque étape avec les maîtres d'ouvrage et l'accompagne jusqu'à la fin du projet. Ils vont aussi dimensionner tous les éléments conforme au projet et aux réglementations, évidemment. Derrière, des architectes, des ingénieurs. Alors, je présente les schémas classiques. En fonction de chaque projet, ces schémas peuvent changer. Mais grâce aux différents exemples qu'on va vous montrer à travers les cours, vous allez pouvoir voir d'autres schémas possibles. Mais bon, ça, c'est les schémas classique, déjà pour comprendre les concepts. La maîtrise d'ouvrage peut être publique ou privée. Publique, parce que ça peut être l'État, des collectivités territoriales, leur établissement public, ou certains organismes privés. Privée, dans les secteurs libres, des particuliers, des promoteurs, des industriels, des organismes sociaux privés, des organismes d'HLM dans les cadres des opérations immobilières sans financement public, et dans les secteurs réglementés, des organismes d'HLM, habitation à loyer modéré, l'Office public d'aménagement et des constructions, les sociétés d'économie mixte, les organismes de délégation des services publics, comme la SNCF, RATP, etc.
Ce que tu présentes là, c'est vraiment pour la France, mais c'est quasiment le même décalque, le même système dans tous les autres pays. Enfin, on a toujours les mêmes concepts, simplement que la terminologie est peut-être différente. Voilà.
Oui, tout à fait. C'est les schémas français, en effet. Après, je vais présenter aussi les faces de la construction, hein, la conception et la construction d'un projet. Et c'est aussi en France. Après, c'est très similaire, en effet, dans les autres pays. Il y a la terminologie qui change, sans doute. Et bon, il y aura aussi de ses spécificités. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, en fait, pourquoi on présente ça? Parce que les années précédentes, les étudiants, comme vous, à la fin de l'année, vous pouvez dire ce qui vous a plu le plus, qu'est-ce qui vous a manqué, de quoi vous aimeriez qu'on parle plus en profondeur l'année suivante. Et en fait, ces thèmes, ils revenaient tout le temps. Vous vouliez comprendre qui étaient les personnes qui étaient derrière un projet de construction, enfin, un objet construit. C'est pour ça qu'on a essayé de rassembler les maximums d'informations dans une courte présentation. Vous pourrez poser des questions à la fin si vous avez des doutes. Donc, la maîtrise d'œuvre, si c'est une œuvre d'architecture, bah, il y a une agence d'architecture, l'architecte, et aussi tous les BOT, structures, électricité, thermicien, ou des consultants en urbanisme, paysagiste, architecte intérieur ou autre. Enfin. Tous les BOT, c'est tous les ingénieurs, en effet. Bureau d'études. Et après, s'ils vont suivre l'avancement du chantier, ça va devenir la maîtrise d'œuvre d'exécution. Donc, on a la maîtrise d'ouvrage au milieu, les clients, la maîtrise d'œuvre qui va concevoir ces projets. Aujourd'hui, on parle aussi de la maîtrise d'usage. Bon, je me suis dit, c'est intéressant parce que des fois, souvent, ce n'est pas les maîtrises d'ouvrage. Il n'est pas tout le temps l'usager plus tard. Par exemple, dans les cadres d'un palais de justice, c'est l'État la maîtrise d'ouvrage et c'est les juges, entre autres, qui vont faire usage de ces bâtiments. Il y a évidemment les entreprises. C'est les entreprises qui vont construire ces projets, qui vont participer à toute la phase d'exécution et réalisation. Et eux, ils vont avoir un contrat, une relation contractuelle avec la maîtrise d'ouvrage, pareil que les maîtres d'œuvre, mais il ne va pas avoir des relations contractuelles entre les maîtres d'œuvre et les entreprises. Donc, maîtrise d'ouvrage donne les ordres et finances aux maîtres d'œuvre et aux entreprises. Les maîtres d'œuvre, ils proposent un projet et rendent compte aux maîtres d'ouvrage. Et il coordonne et vérifie les études et les travaux des entreprises. Et les entreprises vont faire des retours techniques régulièrement aux maîtres d'œuvre et aux maîtres d'ouvrage. Ces projets, ils peuvent se faire en 5 étapes. L'idée du projet, donc il y a les commanditaires qui ont un souhait, qui veulent construire un projet, qui va faire appel du maître d'œuvre. Lui, il va concevoir un projet avec des contraintes quand même des terrains, par exemple, s'il y a contrainte géométrique, s'il y a un terrain, contrainte budgétaire, avec un budget défini, des temps. Et il y a les choix de l'entreprise pour construire ces projets. La fabrication et la construction dans les chantiers et la réception des travaux. Donc ça, c'est applicable, à mon avis, dans différents pays, enfin, dans tous les pays. C'est que l'ouvrage est déjà fini et qu'on considère que c'est fini conforme au projet. Qui peut durer longtemps. Bon, maintenant je vais parler plus précisément des faces. Encore une fois, c'est les faces françaises. Alors, j'aimerais pas oublier des mots un peu techniques. Voilà. Bon. Donc, alors, moi, je connais personnellement les faces françaises et un peu les américaines. Design Development and Construction Development, donc DDCD. Grosso modo, conception, étude du projet, étude plus détaillée pour la construction et après les chantiers. En France, si on parle du première étape, la première étape idée du projet, on pourrait faire entrer dedans la phase esquisse et diagnostic. Esquisse, recherche du parti. Donc, comme je disais, on a par exemple des contraintes géométriques ou autres. Et aussi une demande du commanditaire. Et on va commencer à esquisser, à ébaucher un projet. Diagnostic, quand il s'agit d'un projet de réhabilitation ou rénovation, il faut faire un diagnostic technique et architectural du bâtiment existant pour voir exactement comment arriver à la phase de rénovation souhaitée. Si on parle de la conception du projet, et on est encore dans la phase en anglais design development, on parle des études avant-projet, phase APS, avant-projet sommaire et APD, avant-projet définitif. Et entre les deux, il peut avoir les dossiers des demandes des permis de construire. C'est un ensemble des documents qui ont une valeur juridique et qui va c'est posé face à la mairie, par exemple, à Paris, face à un établissement, une autorité compétente, et qui va permettre après, une fois il est validé, de construire les bâtiments. Donc pendant les phases APS-APD, ce qu'on va faire, c'est commencer déjà à bien dessiner les projets, à dessiner des plans, des élévations, des coupes. En tant qu'ingénieur, qu'est-ce que tu rajouterais, Bernard, pour ces phases-là? Il travaille à fond sur tout ce qui est les dessins du projet. Il y a quand même aussi une approximation budgétaire, mais enfin une approximation. Il y a déjà une estimation des coûts, mais il y a quand même une marge. Entre cette phase-là et celle d'après. Parce qu'une fois les entreprises vont rentrer dedans, il peut y avoir des ajustements. Alors, la phase pro, étude détaillée du projet, comme son nom indique. En effet, on va commencer à détailler les bâtiments à toute échelle et tout type de dessins possibles, dont les ingénieurs ils vont aussi commencer à bien définir ces dessins techniques pour qu'après les entreprises puissent interpréter et comprendre, pas interpréter mais surtout comprendre les souhaits du maître d'œuvre pour pouvoir, plus on dessine, les mieux c'est détaillé, les mieux les entreprises vont pouvoir après construire ce qu'on souhaite nous qu'on construise. Il y a une sélection des entreprises de la construction Donc, la phase ACT, assistance au contrat des travaux, c'est une phase pendant laquelle les entreprises vont elles-mêmes présenter leur projet des travaux. Elles vont aussi parler des ajustements des budgets et des délais. Et il peut y avoir des allers-retours entre les ingénieurs, les maîtres d'œuvre et les entreprises pour justement affiner les différentes parties du projet conçu. La phase excès étude et plan d'exécution, planification de la construction. Comme son nom indique, on commence à planifier la construction et préparer ses chantiers. Et qu'on pourrait situer entre les phases DOT. Et bon, OPC, ce n'est pas une phase en soi, mais c'est la coordination et le pilotage du chantier. Des fois, ça peut être même l'architecte qui le fait. C'est en fonction de l'envergure et la taille du projet qui va avoir besoin de plus ou moins de coordination et la direction de l'exécution des travaux en même temps. Et finalement, c'est livraison du bâtiment au maître d'ouvrage et la phase AOR, assistance aux opérations de réception. Il peut y avoir des pénalités à ces moments-là face à l'entreprise, si par exemple ils ont dépassé les temps et les délais qu'ils avaient prévus par avance. Et après, il peut y avoir aussi des relèves des réserves. Donc ça veut dire l'architecte ou l'ingénieur. Ils ne sont pas contents des certaines parties exécutées par l'entreprise. Et du coup, ils vont faire une réserve, ils vont dire jusqu'à ce que ça ne soit pas fait comme ça. Je ne veux pas décider, je ne veux pas livrer les bâtiments. Pourquoi c'est important aussi la livraison du bâtiment? Parce que c'est les moments dans lesquels les bâtiments deviennent responsabilité complète du maître d'ouvrage. Et il réceptionne les bâtiments comme fini. Bon, il y a d'autres acteurs et d'autres actions. Actions, par exemple, des exigences performance, comme des labels, des certifications, d'énergie passive, l'HQE qui est haute qualité environnementale, très, très à la mode les dernières années. Il y a des financements, des opérations, des codes des marchés publics à respecter. Il y a d'autres personnes derrière, comme des bureaux thermiciens, géotechniciens, géomètres, qui travaille au début du projet, surtout pour définir des caractéristiques du terrain. AMO, assistante à la maîtrise d'ouvrage, pour différentes démarches environnementales, par exemple aussi. Alors, ESPES, c'est pour la santé, j'oublie ce terme, c'est sécurité, protection des santé, non, quelque chose comme ça. Et après, il y a l'inspection du travail qui surveille, que ce soit bien sûr que les chantiers soient sûrs et soient protégés pour tout le monde. Les bureaux des contrôles qui contrôlent que les structures soient sûres, les stabilités des ouvrages, l'accessibilité, entre autres. Et il y a aussi des organismes publics comme la municipalité, la BEF dans les cas de la France, la commission du Vieux-Paris pour respecter certaines réglementations des Paris, les pompiers qui ont aussi un mot à dire. Enfin, tout ça, c'est, je passe très rapidement, mais c'est pour vous montrer la complexité derrière un projet de construction. Mais finalement, pour finir, un projet construit, c'est surtout les résultats d'une aventure humaine, des fois un peu complexe en effet, qui peut durer longtemps en fonction de l'envergure du projet. Nous ici, on a la cathédrale de Notre-Dame de Paris, et qui sera approprié par l'utilisateur plus tard. Donc là, on a les tribunaux des grandes instances de Paris, les palais de justice, une fois il a été déjà livré, et on met de côté les ingénieurs, les architectes, les entreprises, mais c'est les usagers qui font usage de ces espaces aujourd'hui. Voilà. Vous avez des questions? Oui, tout ça, ça sera en ligne après.
C'est peut-être une sorte de... C'est pas exactement dans la thématique du cours, pas exactement. Néanmoins, ça nourrit, ça vous permet d'informer le cours, parce que vous avez une présentation un peu de quels sont les acteurs de la construction. Et en plus, il y avait cette demande que tu as exprimée hein, de votre part, c'est avant d'aller en stage long, on aimerait bien savoir ce que c'est qu'un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre, etc. Donc, une entreprise. Donc là, c'est une présentation rapide, assez détaillée quand tu parles des phases, des différentes phases, esquisses, APS, etc. C'est pas nécessaire pour les visites qu'on va faire, que vous allez faire, d'avoir tout ça en tête. Par contre, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est les cinq étapes de fabrication d'un projet. Et puis les grands, le fait qu'il y a un client, un maître d'œuvre, des entreprises, en gros. Hein. Par contre, puisque vous aurez accès à ce document, avant votre stage long, si vous le souhaitez, ou durant votre stage long, puisque vous serez sans doute confronté à des gens qui vont parler ce jargon-là, hein. C'est un jargon, hein, enfin, eh ben, vous pourrez y avoir accès. Les gens ils disent... à ce pro, il est vraiment, il me fait peur. Il faut savoir ce que c'est que le pro. Voilà.
Ou même maîtrise d'ouvrage, maître d'œuvre. Moi, au début, je savais pas jusqu'à comment expliquer exactement qu'est-ce que c'était. En plus, ça se rapproche, donc c'est facile d'oublier quel est lequel. Du coup, on va faire une petite pause jusqu'à 16h10. Et après, on va rentrer plus en détail dans le programme du cours. Et vous aurez la petite introduction sur Paris, qui est donc le lieu géographique qui nous sert pour aller faire ces visites. Voilà, donc on se retrouve à 16h10, s'il vous plaît.